bienvenue à vous, c'est le journal d'Hélène Philly. Bonjour Hélène.
Bonjour à tous. Le carnage à Kaboul revendiqué par le groupe État islamique et le président américain qui promet de leur faire payer le prix. Nous serons sur place où les Afghans sont terrifiés et aux États-Unis plus que jamais critiqués pour leur gestion de la situation. En France, la rentrée plus politique que jamais. Top départ des candidatures présidentielles données pour beaucoup ce week-end. On va en parler également avec votre invité tout à l'heure, Laetitia.
Oui, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, sera l'invité du grand entretien 8h20, début aujourd'hui donc de l'université d'été du PS à Blois. Olivier Faure est candidat à sa réélection. Comment va le Parti Socialiste à 8 mois de la présidentielle? Quel candidat ou candidate pour mener la campagne? Y aura-t-il une primaire pour les départager? Olivier Faure, lui, soutient la candidature d'Anne Hidalgo. Si la maire de Paris venait à se présenter, on en parle avec lui à 8h20. Vos questions 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Dans l'actualité, encore le doute sur la vaccination a tué et tue encore, les mots d'Olivier Véran hier soir. Mais la France a évité le pire cet été avec l'accélération de la campagne, juge le ministre de la Santé. Le deuxième étage de la fusée relance, un grand plan d'investissement, 20 milliards d'euros, on va en détailler ses grands axes. Une nouvelle médaille aux Jeux Paralympiques de Tokyo, de l'argent pour le cycliste français Alexandre Léauté. Et puis le football, Reims en folie avant le match de dimanche, la faute à Lionel Messi.
France Inter.
Le jour se lève dans un chaos le plus total à Kaboul, en Afghanistan. Hier, près de l'aéroport, les kamikazes de l'État islamique se sont approchés au plus près des portes et des forces américaines pour se faire exploser. 13 militaires américains tués et un bilan total encore extrêmement difficile à établir. Les sources hospitalières sur place évoquent près de 90 victimes. Un carnage qui affole la population.
Les gens ont peur. Ils craignent que la guerre ne recommence. Au début, à l'arrivée des talibans, la population n'était pas inquiète parce qu'il y avait de la sécurité. Il n'y avait pas de bombes, pas de coups de feu, rien. Mais depuis hier, les gens sont préoccupés de voir Daesh recommencer sa guerre en Afghanistan. Moi aussi, je vais partir. Cela fait 10 jours que je suis à Kaboul et que j'essaie. Et je vais réessayer, j'espère. Parce que pour moi et pour ma famille, c'est trop dangereux.
Le témoignage d'Ahmed Sarfazi, recueilli ce matin par Laura Laven, et on retrouve celui qui nous raconte chaque jour la situation sur place, l'envoyé spécial de RFI à Kaboul, Vincent Souriau. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez échappé de justesse à l'attaque hier, Vincent. Vous étiez tout près et les dernières heures ont encore été très tendues.
Hier soir, dans la foulée des attentats, le climat était assez fébrile. On a senti un gros coup de pression, et en particulier sur les talibans, puisque techniquement, ce sont les talibans qui assurent le maintien de l'ordre à Kaboul, qui tiennent les checkpoints et qui sont censés maîtriser la menace terroriste. Donc, ils sont très nerveux et ça s'est pas arrangé parce qu'il y a eu une autre détonation cette nuit qu'on a très bien entendue, alors qu'on est à plusieurs kilomètres de l'aéroport. Ici, à l'hôtel où je me trouve, je peux vous dire qu'on faisait pas les fiers. Il y a eu un moment de stress et puis, assez vite, le porte-parole des talibans est venu dire sur les réseaux sociaux qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur et que ces nouvelles déflagrations étaient contrôlées par les Américains qui sont en train, selon ce porte-parole taliban, de détruire une partie de leur matériel avant de partir.
Extrême tension, hein, donc on l'entend. Comment peut-on imaginer poursuivre les évacuations dans ces conditions ?
Ce que disent les Américains, c'est qu'ils ont un plan. Avec ce plan, il est conçu pour fonctionner en période de stress. Mais en pratique, l'énorme point noir depuis le début de cette crise, c'est qu'il faut convoyer des centaines de personnes du centre-ville vers l'aéroport. Jusqu'ici, ça se faisait très souvent en bus, mais ils sont vulnérables, ces bus, puisque à un moment, ils s'arrêtent aux portes de l'aéroport, ils se mettent à la file pour entrer, et là, il faut, vous savez, passer le miroir sous la voiture, faire des contrôles. Ça prend du temps, et ce temps de latence, c'est celui dont profitent les kamikazes pour frapper. Donc, je ne suis pas retourné à l'aéroport depuis hier, mais j'imagine que les forces américaines ont mis un très sérieux tour de vis sécuritaire.
Vincent Souriau, envoyé spécial de RFI à Kaboul, merci à vous. Et l'autre image de la nuit, c'est celle du président américain Joe Biden, visiblement secoué, au bord des larmes même, qui rend hommage aux militaires, des héros, dit-il, et qui menace.
À ceux qui ont perpétré ces attaques, à ceux également qui souhaitent nous faire du mal, sachez ceci, nous ne pardonnerons pas, nous n'oublierons pas, nous vous pourchasserons et nous vous ferons payer.
Joe Biden, le président américain, se pose en chef de guerre, mais ça n'atténue pas les reproches. C'est le scénario du pire pour Washington, déjà fortement critiqué pour sa gestion du retrait des troupes. Bonjour Loïc Loury.
Bonjour.
Vous êtes à Washington et c'est donc vous qui avez suivi l'intervention de Joe Biden cette nuit.
Oui, pour rendre un hommage appuyé, d'abord les larmes aux yeux à ces soldats morts au combat, on a retrouvé le président plein d'empathie que les Américains ont élu en novembre dernier. Un président qui a vécu hier, sans aucun doute, la pire journée de son début de mandat, lui qui avait promis un départ sûr et en bon ordre de ses troupes d'Afghanistan, les voici désormais prises pour cible par les terroristes. Joe Biden, accusé par les républicains d'être faible depuis la prise de Kaboul, a donc rappelé qu'il était toujours le commander in chief, le chef des armées, et assuré aux auteurs de ces attaques qu'ils seraient traqués et punis. Mais sa position est très affaiblie, il a perdu en popularité depuis une dizaine de jours, dans un pays pourtant qui soutenait largement le retrait d'Afghanistan.
Le président d'ailleurs ne recule pas sur la date de retrait de ses troupes, toujours fixée au 31 août.
Oui, il était temps de mettre fin à 20 années de guerre. C'est ainsi, comme pour se justifier, que Joe Biden a conclu son discours. Les évacuations, assure-t-il, vont se poursuivre. Plus de 100 000 personnes depuis le 14 août ont quitté le pays avec l'aide des Américains, d'après la Maison Blanche. Mais qui sait combien d'Afghans resteront sur le carreau mardi prochain? Il serait toujours 250 000 au moins, selon le New York Times, éligibles au départ éparpillés dans le pays. Les prochains jours seront donc décisifs, sous la menace de nouvelles attaques auxquelles le Pentagone hier a dit s'attendre. Pour autant, aucun soldat supplémentaire ne sera mobilisé. Ils sont actuellement 5800 environ à sécuriser cet aéroport de Kaboul.
Loïc Loury à New York pour France Inter. La revendication du groupe État islamique, ses motivations après cette double attaque qui pourrait avoir fait près de 90 victimes. On y revient juste après ce journal avec Anthony Bélanger. Le secrétaire général de l'ONU réclame une réunion d'urgence. Les condamnations venues toutes par hier, Allemagne, Canada, Russie, France, condamnation ferme d'Emmanuel Macron qui promet de tenter d'évacuer encore plusieurs centaines d'Afghans.
8h08, la suite du journal Hélène Filly. Qui ira, qui n'ira pas?
8 mois nous séparent encore de l'élection présidentielle, mais déjà les candidats se préparent. À droite, Laurent Wauquiez est finalement forfait, mais Michel Barnier, ancien négociateur du Brexit, est candidat à une éventuelle primaire. Pour faire le point, il y a un article très complet sur franceinter.fr. En tout cas, le week-end qui se profile et les multiples rendez-vous politiques sont au tant d'occasions de lancer la campagne, Elgoz.
Difficile de faire plus dense en un week-end. Agenda politique saturé, la droite sera en multiplex, ironise un conseiller, entre ceux qui seront à la Baule, les soutiens de Valérie Pécresse à Brive, les amis d'Éric Ciotti près de Nice et Xavier Bertrand avec les chasseurs du Pas-de-Calais. À gauche, trois couloirs de nage, les socialistes et Anne Hidalgo à Blois, les communistes à Aix-en-Provence, les insoumis dans la Drôme pour leurs amphis d'été. Effervescence classique, chacun sonne les 12 coups de la présidentielle, oui, mais cette rentrée-là est plus éparpillée encore, observe le politologue Frédéric Dabi, le directeur de l'Institut IFOP.
C'est encore plus fort, si je puis dire, à cette élection qui est marquée par une très forte incertitude. L'offre électorale est morcelée. Quand on fait la comptabilité des candidats, on est à un niveau record, très au-dessus du 21 avril 2002. Ça dit aussi peut-être le décalage entre cette effervescence partisane très présidentielle et un désintérêt des Français qui sortent d'un scrutin régional et départemental qui ont enregistré une abstention record.
Point commun à toutes ces rentrées, elles sont organisées par des mouvements opposés au président, sans compter les manifestations anti-pass et anti-vax. Un festival anti-Macron qui n'inquiète pas les cadres de la REM. Crise afghane, déplacement en Irak, le président a d'autres dossiers, plus urgents à gérer, bien au-dessus de la mêlée, plaide l'un de ses soutiens. Pas mécontent de laisser passer l'orage et cet embouteillage de rentrée.
Et parmi les autres dossiers sur la table d'Emmanuel Macron, le nouvel étage de la relance, le quoi qu'il en coûte a beau être fini, un plan d'investissement est en préparation. France 2030, c'est son nom, 20 milliards d'euros prévus et une logique un peu différente de celle du premier plan de relance, Fabien Cazot.
France 2030 ne sera pas, comme France Relance, un guichet auquel pourront se présenter les entreprises candidates à des aides à l'investissement. C'est l'État directement qui décidera d'allouer les sommes à telle ou telle filière industrielle, 5 ou 6, pas plus, afin de montrer que les investissements sont ciblés, qu'il ne s'agit plus d'arroser aussi large qu'au plus fort de la crise. On veut afficher des priorités claires, résume-t-on à Bercy, pour des secteurs d'avenir. Parmi les filières soutenues, certaines figuraient déjà en bonne place dans le plan de relance, les mobilités propres notamment. Il s'agit
s'agit d'un plan d'investissement, insiste-t-on côté gouvernemental, résolument tourné vers l'offre, pas vers la demande. En clair, il s'agit d'encourager l'implantation d'usines innovantes, pérennes, localisées en France. Le volet industriel s'accompagnera d'un volet formation, objectif mieux adapter les compétences des salariés aux métiers qui recruteront en 2030. Le montant de cette enveloppe fait encore l'objet d'intenses tractations entre le ministère du Travail, qui espère obtenir le plus possible, et celui de l'économie.
Réunion interministérielle prévue aujourd'hui pour peaufiner les derniers détails. L'État va aussi débloquer une enveloppe de 130 millions d'euros pour les tiers-lieux. Des lieux pour travailler, ni chez soi, ni au bureau, pour de petits ateliers de production où on mutualise les machines, très porteurs avec l'augmentation du télétravail. Un phénomène de société, juge même Matignon. Et le budget de la justice augmentera de 8% en 2022, annonce hier du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti dans une vidéo publiée sur Facebook. Toujours plus de traversées de la Manche. Plus de 800 migrants ont tenté de rejoindre les côtes anglaises le week-end dernier. C'est un record, même si depuis le début de l'année, les autorités constatent de plus en plus de tentatives de traversées. Et la météo clémente ne suffit pas à les expliquer, Mathilde Dehimy.
Si les Britanniques soulignent que plus de 800 migrants ont atteint leur côte, la préfecture du Pas-de-Calais rappelle que ce même samedi, 250 personnes ont été interceptées ou secourues en mer, soit en tout une quarantaine d'embarcations saisies. Les passeurs s'adaptent, constate François Guénoc, président de l'auberge des migrants.
Pas mal de départs simultanés, de façon à disperser les efforts des autorités pour les arrêter, pour les empêcher de partir. Ça s'est beaucoup développé en 2021. Il y a un autre phénomène aussi, c'est que l'espace géographique de départ s'est élargi, puisque on avait quand même une majorité de gens qui tentaient de partir jusqu'à présent sur une distance d'à peu près 80 km. Aujourd'hui, on est plutôt sur 200 km, des lieux de départ plus éloignés et moins surveillés.
De nouvelles tactiques liées aussi à une plus forte sécurisation autour du port et d'Eurotunnel. Les passeurs tiennent la mer. François Guénoc.
On était habitué à des petits canaux surchargés avec 6 à 10 personnes à bord. Et là, phénomène nouveau cette année, c'est que on assiste à des traversées sur des bateaux plus importants avec des 30, 40, 50 personnes à bord. L'offre des passeurs est certainement aussi importante. C'est une activité très lucrative. Les chiffres qu'on entend, c'est entre 2000 et 5000 euros par personne.
L'auberge des migrants estime à 1500 le nombre de personnes exilées autour de Calais, 300 à Grande-Synthe, sans compter celles qui attendent leur départ cachées près des plages.
Mathilde Dehimy, en bref, l'épidémie de Covid, la circulation du virus baisse nettement depuis quelques jours. Olivier Véran, optimiste hier soir, le ministre de la Santé qui martèle l'importance de la vaccination. Le doute, dit-il, a tué et tue encore. Il n'exclut pas une prolongation du pass sanitaire au-delà du 15 novembre si le virus ne disparaissait pas d'ici là. C'est un peu la folie sur le site internet du Stade de Reims ces derniers jours, sur la plateforme de revente surtout d'ailleurs, parce que le match se joue à guichet fermé. Mais certains essaient de revendre leurs tickets jusqu'à 1000 euros. Vous savez pourquoi ? Pour qui devrait-on dire ?
Il y a Messi.
Ah, il y a Lionel Messi. Le PSG affronte le Stade de Reims dimanche, donc pour la 4e journée de Ligue 1. Et il y a de grandes chances que la star nouvelle recrue soit sur le terrain. Alexandre Dabran, il y aura du monde à Reims ce week-end.
L'événement de ce dimanche à Reims aura une dimension internationale bien au-delà des limites du sport. Le simple fait que Lionel Messi puisse disputer au Stade de l'ONE son premier match en Ligue 1 a totalement rendu les choses hors normes, à tel point que les journalistes du monde entier viendront couvrir l'événement. Près de 150 demandes d'accréditation ont été enregistrées. Un peu plus de 80 seront honorées en respectant la capacité de la tribune de presse du Stade de l'ONE, avec en plus près de 30 photographes au bord du terrain. Ces journalistes arriveront d'Espagne, d'Argentine, d'Angleterre, d'Italie ou encore de Belgique. Le club a également reçu énormément de demandes d'interview. Le responsable de la communication du Stade de Reims, Jérémy Puzos.
On peut compter ça en centaines. Par qui ? C'est souvent des médias français. Il y a pas mal de médias étrangers aussi, espagnols, belges, parce qu'on a des joueurs belges dans l'effectif, sud-américains. Les thématiques, c'est 90% la même chose, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait de jouer face à Lionel Messi. Donc c'est les joueurs qui sont ciblés, le coach aussi. On essaie vraiment de se prêter au jeu parce qu'on sait que c'est aussi valorisant pour le club. Bien évidemment, il faut pas que ça empiète sur le planning des joueurs. Parfois c'est pas possible, mais on essaye dans la mesure du possible, en tout cas, de répondre favorablement à toutes les demandes.
Dimanche soir à Delon, à condition bien sûr que Lionel Messi soit sur la pelouse, la ville de Reims, à travers le sport et le football, sera regardée dans le monde entier.
Le PSG, pas le plus chanceux au tirage de la Ligue des Champions, les Parisiens auront sur leur route Manchester City ou les Allemands du Leipzig. Et une deuxième médaille aux Jeux paralympiques de Tokyo pour le surdoué du cyclisme Alexandre Léauté, 20 ans. Il décroche l'argent ce matin au 1000 mètres contre la montre. Après l'or hier en poursuite, la France en est donc à 5 médailles désormais. Et puis on va se glisser dans la peau d'un historien dans les archives de la ville ou jouer les guides dans un château. C'est l'idée de l'opération C'est mon patrimoine chaque année. Mettre la main à la pâte. 50 000 enfants de 6 à 18 ans participent cette année. Le but, vous l'aurez compris, on s'approprie le patrimoine local, naturel, culturel, monuments, musées, sites archéologiques, comme la bergerie nationale de Rambouillet, bichonnée par ses petites mains. C'est le reportage de Delphine Evenou.
Ils sont une douzaine, bien affairés. Sienna, 11 ans, prend le temps de jouer les guides.
Cette bergerie a été inventée et créée par Louis XVI.
Et donne le programme de la semaine.
On va construire un banc qui va se confondre à la nature.
Tout cela avec des techniques anciennes.
De la maçonnerie au torchis, à la sculpture sur pierre.
Angéline Martin chapote le projet pour l'association Rempart.
Les savoir-faire, ça fait partie de ce patrimoine immatériel qu'on cherche à conserver. Les techniques n'étaient pas si mauvaises et donc ça serait peut-être pas si mal d'y revenir pour certaines. Donc voilà. Participer à les conserver en faisant et en faisant ensemble.
En plein travail, Atina et Axel, 8 et 9 ans, truelle en main.
En fait, là, on est en train de faire de la chaux. Ça se fait avec du mortier, avec
de la chaux et du sable et de l'eau. Bah, c'est pour fixer les pierres.
C'est un peu de la colle.
Pour la plupart, c'est leur amour du travail manuel qui les a conduits ici. Enfin, pas tous.
Et moi, en fait, c'est mes parents. Je sais pas, en fait, pourquoi je suis venue ici.
Ah, bon, mince. Mais t'es contente d'être là, quand même?
Oui, c'est génial.
Marcel lui revient pour la deuxième fois dans cette colo un peu particulière. Cet après-midi, il est sculpteur sur pierre.
Recopie notre image sur notre pierre. Et on va sculpter autour de l'image.
Chacun à son poste, minutieux, avec des petites victoires.
Ça vous plaît comme ça ?
Et de nouveaux copains. Un compagnonnage version 2021.
N'hésitez pas à réécouter ce reportage en longueur sur franceinter.fr.
Merci Hélène Filier et vos petites mains. On les retrouve dans le 19h, le journal de 19h à partir de lundi.
Oui, à lundi,
voilà.
Bon week-end.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Marie-Pierre Planchon, le ciel est nuageux sur le nord, mais dès ce matin...
Et oui, Laetitia, on a toujours cette perturbation hein, qui vient de la mer du Nord, qui est poussée par ce vent de nord-est et qui rafraîchit l'atmosphère. Les passages nuageux sont donc nombreux des Hauts-de-France à la Normandie, à l'Île-de-France, à l'Alsace, donnant parfois quelques gouttes sur le nord et le nord-est. Et avec cette bise qui souffle de nouveau près de la Manche à 50 km/h, ailleurs vous avez pu voir le soleil se lever, mais le fond de l'air est bien frais du centre-nord-est, avec seulement 6 degrés en Haute-Marne, à Bourdon ou en Haute-Saône, pas plus de 7 dans la Creuse, 9 sur les Ardennes et en Lozère, contraste avec les 26 degrés relevés en Corse, à l'île et 25 sur les côtes du Roussillon.
Et cet après-midi, il y a un peu plus d'éclaircies quand même ?
Mais oui, de la Bretagne à l'Île-de-France, au Grand Est, avec parfois une ondée encore près des frontières du Nord. En revanche, au sud de la Loire, le temps restera bien ensoleillé, mais le vent va se renforcer autour de la Grande Bleue, du Golfe du Lion jusqu'à la Corse à 70 km/h. Et le mercure sera en baisse, mais fera toujours le grand écart entre le Nord et le Sud. 14 degrés d'écart donc entre le Nord et le Sud, avec 18 seulement prévus sur la plage des Rosaires à Saint-Brieuc, 32 à Argelès-sur-Mer. Vous aurez 19 au Havre, 20 à Caen et au Puy-en-Velay, 21 à Strasbourg, 22 à Aurillac, 23 à Lyon, encore 24 à Nantes comme à Grenoble, 27 sur la baie des Anges, 28 à Montpellier, 29 à Bastia comme à Marseille.
Merci.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Merci Marie-Pierre Planchon. 8h19, c'est Géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter.
Bonjour Anthony Bélanger.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous.
Des dizaines de morts, dont 13 soldats américains, l'horreur frappe de nouveau à Kaboul.
Oui, avec elle s'envole l'illusion d'une certaine sécurité promise par les talibans à Kaboul. Le pire étant que les agences de renseignement occidentales avaient été prévenues de l'imminence d'une attaque terroriste. Et une revendication d'évidence, le groupe d'État islamique. Alors pourquoi d'évidence ? Eh bien parce que les talibans, eux, n'ont aucun intérêt à conduire de telles attaques. D'abord parce qu'elles sont inutiles au regard de leur objectif principal, hein, sortir au plus vite toutes les forces étrangères du pays, et si possible en les humiliant, les 15 jours d'évacuation chaotique auxquels nous venons d'assister suffisent donc à leur bonheur médiatique. De plus, les talibans sont sur une démarche de construction étatique et de dialogue diplomatique. Rien ne serait donc plus contre-productif que des attentats.
Et Al-Qaïda, on sait que le groupe terroriste est présent sur place.
Oui, l'ONU précise même qu'Al-Qaïda serait présent dans une quinzaine de provinces afghanes, sauf que tous les spécialistes s'accordent à dire que le jadis puissant et autonome Al-Qaïda n'est plus que l'ombre d'elle-même en Afghanistan. Elle n'a plus l'argent et parvient à peine à aligner au mieux quelques centaines de combattants souvent démobilisés depuis longtemps. Mais surtout en Afghanistan, Al-Qaïda est totalement inféodé aux talibans et n'est donc pas en mesure d'opérer de telles opérations. Daesh, par contre, dispose sur place de 1500 à 2000 combattants aguerris et fanatisés. Depuis la défaite de sa branche moyen-orientale, les dizaines de millions de dollars du trésor de guerre de l'organisation sont à la disposition de la branche afghane. Enfin, le groupe État islamique en Afghanistan a une base de repli, la province de Nangarhar, à côté de Kaboul, donc de l'argent qui coule à flot, des combattants solides, une base de repli et même quelques alliés locaux, et puis surtout, une volonté de nuire intacte.
Et pourquoi Daesh voudrait nuire aux talibans ?
Eh bien, tout simplement parce que ces deux organisations se haïssent. Le groupe État islamique accuse les talibans d'avoir trahi la cause en signant un accord avec les Américains. C'était en février 2020. Ils les traitent d'apostats et ils sont surtout plus brutaux et plus sanglants. On leur doit, sur les quatre premiers mois de l'année, 77 attentats, attaques et assassinats ciblés des journalistes, les chiites afghans, leurs mosquées et leurs mariages, des maternité, et pas plus tard qu'en mai dernier, une école de filles à Kaboul, 85 morts. Les deux attentats d'hier servent d'ailleurs parfaitement leurs intérêts, et ce pour trois raisons. D'abord, ils prouvent qu'ils existent toujours et sont toujours puissants. Ensuite, ils attaquent une cible légitime pour eux, les Américains et les Afghans qui les ont servis.
Et les talibans n'ont pas essayé de les annihiler ?
Si, bien sûr. Ils étaient même la cible commune des Occidentaux, d'Al-Qaïda et des talibans. Daesh a d'ailleurs perdu un tiers de ses combattants. Mais ça, et c'est la troisième raison de ces attentats sophistiqués, ils ont montré au grand jour la faiblesse de leur ennemi, c'est-à-dire de la faiblesse structurelle des talibans. Et c'est peut-être le coup le plus dur pour le nouveau régime afghan qui, depuis plusieurs jours, tentait de démontrer qu'ils assuraient la sécurité dans la capitale et dans le pays. Or, contrairement à leur propagande, la guerre et la violence ne sont visiblement pas terminées.
Merci Anthony Bélanger pour Géopolitique. Lundi, on retrouvera Pierre Aski.